Le Rouge et le Noir, chapitre 63. L'enfer de la faiblesse. En taillant ce diamant, un lapidaire malhabile lui a ôté quelques-unes de ses plus vives étincelles. Au Moyen-Âge, que dis-je, encore sous Richelieu, le français avait la force de vouloir. Mirabeau. Julien trouva le marquis furieux. Pour la première fois de sa vie, peut-être, ce seigneur fut de mauvais ton. Il accabla Julien de toutes les injures qui lui vinrent à la bouche. Notre héros fut étonné, impatienté, mais sa reconnaissance n'en fut point ébranlée. Que de beaux projets, depuis longtemps chéris au fond de sa pensée, le pauvre homme voit s'écrouler en un instant. Mais je lui dois de lui répondre. Mon silence augmenterait sa colère. La réponse fut fournie par le rôle de Tartuffe. Je ne suis pas un ange. Je vous ai bien servi, vous m'avez payé avec générosité. J'étais reconnaissant, mais j'ai 22 ans. Dans cette maison, ma pensée n'était comprise que de vous et de cette personne aimable.
Monstre ! S'écria le marquis. Aimable ! Aimable ! Le jour où vous l'avez trouvé aimable, vous deviez fuir.
Je l'ai tenté. Alors je vous demandais de partir pour le Languedoc. Là de se promener avec fureur, le marquis, dompté par la douleur, se jeta dans un fauteuil. Julien l'entendit se dire à demi-voix « Ce n'est point là un méchant homme !»«
Non, je ne le suis pas pour vous !» s'écria Julien en tombant à ses genoux.
Mais il eut une honte extrême de ce mouvement et se releva bien vite. Le marquis était réellement égaré. À la vue de ce mouvement, il recommença à l'accabler d'injures atroces et dignes d'un cocher de fiacre. La nouveauté de ses jurons était peut-être une distraction.
« Quoi ? Ma fille s'appellera Madame Sorel ? Quoi ? Ma fille ne sera pas duchesse ?»
Toutes les fois que ces deux idées se présentaient aussi nettement, Monsieur de La Mole était torturé, et les mouvements de son âme n'étaient pas volontaires. Julien craignit d'être battu. Dans les intervalles lucides, et lorsque le marquis commençait à s'accoutumer à son malheur, il adressait à Julien des reproches assez raisonnables.
« Il fallait fuir, monsieur, lui disait-il. Votre devoir était de fuir. Vous êtes le dernier des hommes. »
Julien s'approcha de la table et écrivit. « Depuis longtemps, la vie m'est insupportable. J'y mets un terme. » Je prie monsieur le marquis d'agréer, avec l'expression d'une reconnaissance sans bornes, mes excuses de l'embarras que ma mort dans son hôtel peut causer.
Que monsieur le marquis daigne parcourir ce papier.
Tuez-moi, dit Julien, ou faites-moi tuer par votre valet de chambre. Il est 1 heure du matin, je vais me promener au jardin vers le mur du fond.
Allez à tous les diables ! Lui cria le marquis comme il s'en allait.
Je comprends, pensa Julien. Il ne serait pas fâché de me voir épargner la façon de ma mort à son valet de chambre. Qu'il me tue, à la bonne heure, c'est une satisfaction que je lui offre.
Mais, parbleu, j'aime la vie, je me dois à mon fils.
Cette idée, qui pour la première fois paraissait aussi nettement à son imagination, l'occupa tout entier après les premières minutes de promenade données au sentiment du danger. Cet intérêt si nouveau en fit un être prudent.
« Il me faut des conseils pour me conduire avec cet homme fougueux. Il n'a aucune raison, il est capable de tout.
Fouquet est trop éloigné. D'ailleurs, il ne comprendrait pas les sentiments d'un cœur tel que celui du marquis. »
Le comte Altamira. « Suis-je sûr d'un silence éternel ? Il ne faut pas que ma demande de conseil soit une action et complique ma position.
Hélas, il ne me reste que le sombre abbé Pirard. Son esprit est rétréci par le jansénisme. Un coquin de jésuite connaîtrait le monde et serait mieux mon fait. Monsieur Pirard est capable de me battre au seul énoncé du crime. »
Le génie de Tartuffe vint au secours de Julien.
« Eh bien, j'irai me confesser à lui. » Telle fut la dernière résolution qu'il prit au jardin après s'être promené 2 grandes heures.
et il ne pensait plus qu'il pouvait être surpris par un coup de fusil. Le sommeil le gagnait. Le lendemain, de très grand matin, Julien était à plusieurs lieues de Paris, frappant à la porte du sévère janséniste. Il trouva, à son grand étonnement, qu'il n'était point trop surpris de sa confidence. « J'ai peut-être des reproches à me faire, » se disait l'abbé, plus soucieux qu'irrité. « J'avais cru deviner cet amour. Mon amitié pour vous, petit malheureux, m'a empêché d'avertir le père. » « Que va-t-il faire ? » lui dit vivement Julien. Il aimait l'abbé en ce moment, et une scène lui eût été fort pénible. « Je vois trois parties, » continua Julien. « Premièrement, monsieur de la Mole peut me faire donner la mort. » Et il raconta la lettre de suicide qu'il avait laissée au marquis. « Deuxièmement, me faire tirer au blanc par le comte Norbert, qui me demanderait un duel. »«
Vous accepteriez ?»
dit l'abbé furieux et se levant. « Vous ne me laissez pas achever. Certainement, je ne tirerai jamais sur le fils de mon bienfaiteur. Troisièmement, il peut m'éloigner. S'il me dit « Allez à Édimbourg, à New York, j'obéirai. Alors on peut cacher la position de mademoiselle de la Mole, mais je ne souffrirai point qu'on supprime mon fils. » Ce sera là, n'en doutez point, la première idée de cet homme corrompu. À Paris, Mathilde était au désespoir. Elle avait vu son père vers les 7 heures. Il lui avait montré la lettre de Julien. Elle tremblait qu'il n'eût trouvé noble de mettre fin à sa vie. « Et sans ma permission ?» se disait-elle avec une douleur qui était de la colère. « S'il est mort, je mourrai, » dit-elle à son père. « C'est vous qui serez cause de sa mort. Vous vous en réjouirez peut-être. Mais je le jure à ses mânes. D'abord, je prendrai le deuil et serai publiquement Madame Veuve Sorel. J'enverrai mes billets de faire part. Comptez là-dessus. Vous ne me trouverez ni pusillanime ni lâche. » Son amour allait jusqu'à la folie. À son tour, Monsieur de la Mole fut interdit. Il commença à voir les événements avec quelque raison. Au déjeuner, Mathilde ne parut point. Le marquis fut délivré d'un poids immense, et surtout flatté quand il s'aperçut qu'elle n'avait rien dit à sa mère. Julien descendait de cheval. Mathilde le fit appeler et se jeta dans ses bras, presque à la vue de sa femme de chambre. Julien ne fut pas très reconnaissant de ce transport. Il sortait, fort diplomate et fort calculateur, de sa longue conférence avec l'abbé Pirard. Son imagination était éteinte par le calcul des possibles. Mathilde, les larmes aux yeux, lui apprit qu'elle avait vu sa lettre de suicide. « Mon père peut se raviser. Faites-moi le plaisir de partir à l'instant même pour Villequier. Remontez à cheval. Sortez de l'hôtel avant qu'on ne se lève de table. » Comme Julien ne quittait point l'air étonné et froid, elle eut un accès de larmes. « Laisse-moi conduire nos affaires » s'écria-t-elle avec transport et en le serrant dans ses bras. « Tu sais bien que ce n'est pas volontairement que je me sépare de toi. Écris sous le couvert de ma femme de chambre, que l'adresse soit d'une main étrangère. Moi, je t'écrirai des volumes. Adieu, fuis !» Ce dernier mot blessa Julien. Il obéit cependant. « Il est fatal, » pensait-il, « que même dans leurs meilleurs moments, ces gens-là trouvent le secret de me choquer. » Mathilde résista avec fermeté à tous les projets prudents de son père. Elle ne voulut jamais établir la négociation sur d'autres bases que celle-ci. Elle serait Madame Sorel et vivrait pauvrement avec son mari en Suisse ou chez son père à Paris. Elle repoussait bien loin la proposition d'un accouchement clandestin. Alors commencerait pour moi la possibilité de la calomnie et du déshonneur. 2 mois après le mariage, j'irai voyager avec mon mari, et il nous sera facile de supposer que mon fils est né à une époque convenable. D'abord accueillie par des transports de colère, cette fermeté finit par donner des doutes au marquis. Dans un moment d'attendrissement, « Tiens, » dit-il à sa fille, « voilà une inscription de 10 000 livres de rente. En voilà à ton Julien. et qu'il me mette bien vite dans l'impossibilité de la reprendre. » Pour obéir à Mathilde, dont il connaissait l'amour pour le commandement, Julien avait fait 40 lieues inutiles. Il était à Villequier, réglant les comptes des fermiers. Ce bienfait du marquis fut l'occasion de son retour. Il alla demander asile à l'abbé Pirard, qui, pendant son absence, était devenu l'allié le plus utile de Mathilde. Toutes les fois qu'il était interrogé par le marquis, il lui prouvait que tout autre parti que le mariage public serait un crime aux yeux de Dieu. « Et par bonheur, ajoutait l'abbé, la sagesse du monde est ici d'accord avec la religion. Pourrait-on compter un instant avec le caractère fougueux de Mademoiselle de la Mole sur le secret qu'elle ne se serait pas imposé à elle-même? Si l'on n'admet pas la marche franche d'un mariage public, la société s'occupera beaucoup plus longtemps de cette mésalliance étrange. Il faut tout dire en une fois, sans apparence ni réalité du moindre mystère. » « Il est vrai, dit le marquis pensif. Dans ce système, parler de ce mariage après 3 jours devient un rabâchage d'homme qui n'a pas d'idée. Il faudrait profiter de quelques grandes mesures anti-jacobines du gouvernement pour se glisser incognito à la suite. » 2 ou 3 amis de monsieur de la Mole pensaient comme l'abbé Pirard. Le grand obstacle, à leurs yeux, était le caractère décidé de Mathilde. Mais après tant de beaux raisonnements, l'âme du marquis ne pouvait s'accoutumer à renoncer à l'espoir du tabouret pour sa fille. Sa mémoire et son imagination étaient remplies des roueries et des faussetés de tout genre qui étaient encore possibles dans sa jeunesse. Céder à la nécessité, avoir peur de la loi, lui semblait chose absurde et déshonorante pour un homme de son rang. Il payait cher maintenant ses rêveries enchanteresses qu'il se permettait depuis 10 ans sur l'avenir de cette fille chérie. « Qui l'eût pu prévoir ?» se disait-il. « Une fille d'un caractère si altier, d'un génie si élevé, plus fière que moi du nom qu'elle porte, dont la main m'était demandée d'avance par tout ce qu'il y a de plus illustre en France. » Il faut renoncer à toute prudence. Ce siècle est fait pour tout confondre. Nous marchons vers le chaos. Chapitre 64. Un homme d'esprit. Le préfet, cheminant sur son cheval, se disait « Pourquoi ne serais-je pas ministre, président du conseil, duc? Voici comment je ferai la guerre. Par ce moyen, je jetterai les novateurs dans les fers. » Le Globe. Aucun argument ne vaut pour détruire l'empire de 10 années de rêveries agréables. Le marquis ne trouvait pas raisonnable de se fâcher, mais ne pouvait se résoudre à pardonner. Si ce Julien pouvait mourir par accident, se disait-il quelquefois. C'est ainsi que cette imagination attristée trouvait quelque soulagement à poursuivre les chimères les plus absurdes. Elle paralysait l'influence des sages raisonnements de l'abbé Pirard. 1 mois se passa ainsi, sans que la négociation fît un pas. Dans cette affaire de famille, comme dans celle de la politique, le marquis avait des aperçus brillants dont il s'enthousiasmait pendant 3 jours. Alors, un plan de conduite ne lui plaisait pas, parce qu'il était étayé par de bons raisonnements. Mais les raisonnements ne trouvaient grâce à ses yeux qu'autant qu'ils appuyaient son plan favori. Pendant 3 jours, il travaillait avec toute l'ardeur et l'enthousiasme d'un poète à amener les choses à une certaine position. Le lendemain, il n'y songeait plus. D'abord, Julien fut déconcerté des lenteurs du marquis. Mais après quelques semaines, il commença à deviner que M. de la Mole n'avait, dans cette affaire, aucun plan arrêté. Madame de la Mole et toute la maison croyaient que Julien voyageait en province pour l'administration des terres. Il était caché au presbytère de l'abbé Pirard et voyait Mathilde presque tous les jours. Elle, chaque matin, allait passer 1 heure avec son père, mais quelquefois ils étaient des semaines entières sans parler de l'affaire qui occupait toute leur pensée. « Je ne veux pas savoir où est cet homme, » lui dit un jour le marquis. « Envoyez-lui cette lettre. » Mathilde lut. Les terres de Languedoc rendent 20 600 francs. Je donne 10 600 francs à ma fille et 10 000 francs à Monsieur Julien Sorel. Je donne les terres même, bien entendu. Dites au notaire de dresser deux actes de donation séparés et de me les apporter demain. Après quoi, plus de relations entre nous. Ah, monsieur, devais-je m'attendre à tout ceci ? Le marquis de La Mole.
Je vous remercie beaucoup, dit Mathilde gaiement. Nous allons nous fixer au château d'Aiguillon, entre Agen et Marmande. On dit que c'est un pays aussi beau que l'Italie.
Cette donation surprit extrêmement Julien. Il n'était plus l'homme sévère et froid que nous avons connu. La destinée de son fils absorbait d'avance toutes ses pensées. Cette fortune imprévue et assez considérable pour un homme si pauvre en fit un ambitieux. Il se voyait, à sa femme ou à lui, 36 000 livres de rente. Pour Mathilde, tous ses sentiments étaient absorbés dans son adoration pour son mari, car c'est ainsi que son orgueil appelait toujours Julien. Sa grande, son unique ambition était de faire reconnaître son mariage. Elle passait sa vie à s'exagérer la haute prudence qu'elle avait montrée en liant son sort à celui d'un homme supérieur. Le mérite personnel était à la mode dans sa tête. L'absence presque continue, la multiplicité des affaires, le peu de temps que l'on avait pour parler d'amour, vinrent compléter le bon effet de la sage politique autrefois inventée par Julien. Mathilde finit par s'impatienter de voir si peu l'homme qu'elle était parvenue à aimer réellement. Dans un moment d'humeur, elle écrivit à son père et commença sa lettre comme Othello. « Que j'ai préféré Julien aux agréments que la société offrait à la fille de monsieur le marquis de La Mole, mon choix le prouve assez. Ses plaisirs de considération et de petite vanité sont nuls pour moi. » Voici bientôt 6 semaines que je vis séparée de mon mari. C'est assez pour vous témoigner mon respect. Avant jeudi prochain, je quitterai la maison paternelle. Vos bienfaits nous ont enrichis. Personne ne connaît mon secret que le respectable abbé Pirard. J'irai chez lui. Il nous mariera, et 1 heure après la cérémonie, nous serons en route pour le Languedoc et ne reparaîtrons jamais à Paris que d'après vos ordres. Mais ce qui me perce le cœur, c'est que tout ceci va faire anecdote piquante contre moi, contre vous. Les épigrammes d'un public sot ne peuvent-elles pas obliger notre excellent Norbert à chercher querelle à Julien? Dans cette circonstance, je le connais, je n'aurais aucun empire sur lui. Nous trouverions dans son âme du plébéien révolté. Je vous en conjure à genoux, ô mon père. « Venez assister à mon mariage dans l'église de Monsieur Pirard, jeudi prochain. Le piquant de l'anecdote maligne sera adouci, et la vie de votre fils unique, celle de mon mari, seront assurées. » Etc., etc. L'âme du marquis fut jetée par cette lettre dans un étrange embarras. Il fallait donc, à la fin, prendre un parti. Toutes les petites habitudes, tous les amis vulgaires avaient perdu leur influence. Dans cette étrange circonstance, les grands traits du caractère imprimés par les événements de la jeunesse reprirent tout leur empire. Les malheurs de l'émigration en avaient fait un homme à imagination. Après avoir joui pendant 2 ans d'une fortune immense et de toutes les distinctions de la cour, 1790 l'avait jeté dans les affreuses misères de l'émigration. Cette dure école avait changé une âme de 22 ans. Au fond, il était campé au milieu de ses richesses actuelles, plus qu'il n'en était dominé. Mais cette même imagination qui avait préservé son âme de la gangrène de l'or l'avait jeté en proie à une folle passion pour voir sa fille décorée d'un beau titre. Pendant les 6 semaines qui venaient de s'écouler, tantôt poussé par un caprice, le marquis avait voulu enrichir Julien. La pauvreté lui semblait ignoble, déshonorante pour lui, monsieur de La Mole, impossible chez l'époux de sa fille. Il jetait l'argent. Le lendemain, son imagination prenant un autre cours, il lui semblait que Julien allait entendre le langage muet de cette générosité d'argent. Changer de nom, s'exiler en Amérique, écrire à Mathilde qu'il était mort pour elle. Monsieur de La Mole supposait cette lettre écrite. Il suivait son effet sur le caractère de sa fille. Le jour où il fut tiré de ses songes si jeunes par la lettre réelle de Mathilde, après avoir pensé longtemps à tuer Julien ou à le faire disparaître, il rêvait à lui bâtir une brillante fortune. Il lui faisait prendre le nom d'une de ses terres. Et pourquoi ne lui ferait-il pas passer sa pairie? Monsieur le duc de Chaulnes, son beau-père, lui avait parlé plusieurs fois, depuis que son fils unique avait été tué en Espagne, du désir de transmettre son titre à Norbert. L'on ne peut refuser à Julien une singulière aptitude aux affaires, de la hardiesse, peut-être même du brillant, se disait le marquis. Mais au fond de ce caractère, je trouve quelque chose d'effrayant. C'est l'impression qu'il produit sur tout le monde. Donc, il y a là quelque chose de réel. Plus ce point réel était difficile à saisir, plus il effrayait l'âme imaginative du vieux marquis. Ma fille me le disait fort adroitement l'autre jour, dans une lettre supprimée. Julien ne s'est affilié à aucun salon, à aucune coterie. Il ne s'est ménagé aucun appui contre moi, pas la plus petite ressource si je l'abandonne. Mais est-ce la ignorance de l'état actuel de la société? Deux ou trois fois je lui ai dit, il n'y a de candidature réelle et profitable que celle des salons. Non, il n'a pas le génie adroit et cotuleux d'un procureur qui ne perd ni une minute ni une opportunité. Ce n'est point d'un caractère à la Louis XI. D'un autre côté, je lui vois les maximes les plus anti-généreuses. Je m'y perds. Se répéterait-il ces maximes pour servir de digue à ses passions? Du reste, une chose surnage. Il est impatient du mépris, je le tiens par là. Il n'a pas la religion de la haute naissance, il est vrai. Il ne nous respecte pas d'instinct. C'est un tort. Mais enfin, l'âme d'un séminariste devrait n'être impatiente que du manque de jouissance et d'argent. Lui, bien différent, ne peut supporter le mépris à aucun prix. Pressé par la lettre de sa fille, Monsieur de La Mole vit la nécessité de se décider. Enfin, voici la grande question. L'audace de Julien est-elle allée jusqu'à entreprendre de faire la cour à ma fille parce qu'il sait que je l'aime avant tout et que j'ai 100 000 écus de rente? Mathilde proteste du contraire. Non, mon Julien, voilà un point sur lequel je ne veux pas me laisser faire illusion. Y a-t-il eu amour véritable, imprévu? Ou bien désir vulgaire de s'élever à une belle position? Mathilde est clairvoyante, elle a senti d'abord que ce soupçon peut le perdre auprès de moi. De là cet aveu, c'est elle qui s'est avisée de l'aimer la première. Une fille d'un caractère si altier se serait oubliée jusqu'à faire des avances matérielles? Lui serrer le bras au jardin, un soir? Quelle horreur! Comme si elle n'avait pas eu 100 moyens moins indécents de lui faire connaître qu'elle le distinguait. Qui s'excuse, s'accuse. Je me défie de Mathilde. Ce jour-là, les raisonnements du marquis étaient plus concluants qu'à l'ordinaire. Cependant, l'habitude l'emporta. Il résolut de gagner du temps et d'écrire à sa fille. Car on s'écrivait d'un côté de l'hôtel à l'autre. Monsieur de La Mole n'osait discuter avec Mathilde et lui tenir tête. Il avait peur de tout finir par une concession subite. Lettre. Gardez-vous de faire de nouvelles folies. Voici un brevet de lieutenant de hussards pour monsieur le chevalier Julien Sorel de la Vernaille. Vous voyez ce que je fais pour lui. Ne me contrariez pas, ne m'interrogez pas. Qu'il parte dans 24 heures. Pour se faire recevoir à Strasbourg, où est son régiment.
voici un mandat sur mon banquier, qu'on m'obéisse. » La joie et l'amour de Mathilde n'eurent plus de bornes. Elle voulut profiter de la victoire et répondit à l'instant. « Monsieur de La Vernaye serait à vos pieds éperdu de reconnaissance s'il savait tout ce que vous daignez faire pour lui. Mais, au milieu de cette générosité, mon père m'a oublié. L'honneur de votre fille est en danger. Une indiscrétion peut faire une tâche éternelle, et que 20 000 écus de rente ne répareraient pas. Je n'enverrai le brevet à monsieur de La Vernaye que si vous me donnez votre parole, que, dans le courant du mois prochain, mon mariage sera célébré en public à Villequier. Bientôt après cette époque, que je vous supplie de ne pas outrepasser, votre fille ne pourra paraître en public qu'avec le nom de madame de La Vernaye. Que je vous remercie, cher papa, de m'avoir sauvé de ce nom de Sorel, etc. » La réponse fut imprévue. « Obéissez, ou je me rétracte de tout. Tremblez, jeune imprudente. Je ne sais pas encore ce que c'est que votre Julien, et vous-même, vous le savez moins que moi. Qu'il parte pour Strasbourg et songe à marcher droit. Je ferai connaître mes volontés d'ici à 15 jours. » Cette réponse si ferme étonna Mathilde. « Je ne connais pas Julien ?» Ce mot la jeta dans une rêverie qui bientôt finit par les suppositions les plus enchanteresses. Mais elle les croyait la vérité. L'esprit de mon Julien n'a pas revêtu le petit uniforme mesquin des salons, et mon père ne croit pas à sa supériorité, précisément à cause de ce qu'il approuve. Toutefois, si je n'obéis pas à cette velléité de caractère, je vois la possibilité d'une scène publique. Un éclat abaisse ma position dans le monde et peut me rendre moins aimable aux yeux de Julien. Après l'éclat, pauvreté pour 10 ans, et la folie de choisir un mari à cause de son mérite ne peut se sauver du ridicule que par la plus brillante opulence. Si je vis loin de mon père, à son âge, il peut m'oublier. Norbert épousera une femme aimable, à droite. Le vieux Louis XIV fut séduit par la duchesse de Bourgogne. Elle se décida à obéir, mais se garda de communiquer la lettre de son père à Julien. Ce caractère farouche eût pu être porté à quelque folie. Le soir, lorsqu'elle apprit à Julien qu'il était lieutenant de hussards, sa joie fut sans bornes. On peut se la figurer par l'ambition de toute sa vie et par la passion qu'il avait maintenant pour son fils. Le changement de nom le frappait d'étonnement. « Après tout, pensait-il, mon roman est fini, et à moi seul tout le mérite. » J'ai su me faire aimer de ce monstre d'orgueil, ajoutait-il en regardant Mathilde. Son père ne peut vivre sans elle, et elle sans moi. Chapitre 65. Un orage. Mon Dieu, donnez-moi la médiocrité. Mirabeau. Son âme était absorbée. Il ne répondait qu'à demi à la vive tendresse qu'elle lui témoignait. Il restait silencieux et sombre. Jamais il n'avait paru si grand, si adorable aux yeux de Mathilde. Elle redoutait quelque subtilité de son orgueil qui viendrait déranger toute la position. Presque tous les matins, elle voyait l'abbé Pirard arriver à l'hôtel. Par lui, Julien ne pouvait-il pas avoir pénétré quelque chose des intentions de son père? Le marquis lui-même, dans un moment de caprice, ne pouvait-il pas lui avoir écrit? Après un aussi grand bonheur, comment expliquer l'air sévère de Julien? Elle n'osa l'interroger. Elle n'osa. Elle, Mathilde. Il y eut dès ce moment dans son sentiment pour Julien du vague, de l'imprévu, presque de la terreur. Cette âme sèche sentit de la passion tout ce qui en est possible dans un être élevé au milieu de cet excès de civilisation que Paris admire. Le lendemain, de grand matin, Julien était au presbytère de l'abbé Pirard. Des chevaux de poste arrivaient dans la cour, avec une chaise délabrée, louée à la poste voisine. « Un tel équipage n'est plus de saison, » lui dit le sévère abbé d'un air rechigné. Voici 20 000 francs dont monsieur de la Mole vous fait cadeau. Il vous engage à les dépenser dans l'année, mais en tâchant de vous donner le moins de ridicule possible. »
Dans une somme aussi forte, jetée à un jeune homme, le prêtre ne voyait qu'une occasion de péché.
Le marquis ajoute, « Monsieur Julien de la Vernaille aura reçu cet argent de son père, qu'il est inutile de désigner autrement. Monsieur de la Vernaille jugera peut-être convenable de faire un cadeau à monsieur Sorel, charpentier à Verrières, qui soigna son enfance. Je pourrai me charger de cette partie de la commission, » ajouta l'abbé. J'ai enfin déterminé monsieur de la Mole à transiger avec cet abbé de Frilair, si jésuite. Son crédit est décidément trop fort pour le nôtre. La reconnaissance implicite de votre haute naissance par cet homme qui gouverne Besançon sera une des conditions tacites de l'arrangement. » Julien ne fut plus maître de son transport. Il embrassa l'abbé. Il se voyait reconnu.
« Fi donc !» dit M. Pirard en le repoussant. « Que veut dire cette vanité mondaine ?
Quant à Sorel et à ses fils, je leur offrirai, en mon nom, une pension annuelle de 500 francs, qui leur sera payée à chacun, tant que je serai content d'eux. »
Julien était déjà froid et hautain. Il remercia, mais en termes très vagues et n'engageant à rien. « Serait-il bien possible, se disait-il, que je fusse le fils naturel de quelque grand seigneur exilé dans nos montagnes par le terrible Napoléon ? » À chaque instant, cette idée lui semblait moins improbable. « Ma haine pour mon père serait une preuve. Je ne serais plus un monstre. »
Peu de jours après ce monologue, le 15e régiment de Hussards, l'un des plus brillants de l'armée, était en bataille sur la place d'armes de Strasbourg. Monsieur le chevalier de la Vernaille montait le plus beau cheval de l'Alsace, qui lui avait coûté 6 000 francs. Il était reçu lieutenant, sans avoir jamais été sous-lieutenant, que sous les contrôles d'un régiment dont jamais il n'avait ouï parler. Son air impassible, ses yeux sévères et presque méchants, sa pâleur, son inaltérable sang-froid, commencèrent sa réputation dès le premier jour. Peu après, sa politesse parfaite et pleine de mesures, son adresse aux pistolets et aux armes, qu'il fit connaître sans trop d'affectation, éloignèrent l'idée de plaisanter à haute voix sur son compte. Après 5 ou 6 jours d'hésitation, l'opinion publique du régiment se déclara en sa faveur. « Il y a tout dans ce jeune homme, » disaient les vieux officiers goguenards, « excepté de la jeunesse. » De Strasbourg, Julien écrivit à M. Chélan, l'ancien curé de Verrières, qui touchait maintenant aux bornes de l'extrême vieillesse. « Vous aurez appris avec une joie, dont je ne doute pas, les événements qui ont porté ma famille à m'enrichir. Voici 500 francs que je vous prie de distribuer, sans bruit, ni mention aucune de mon nom, aux malheureux pauvres maintenant comme je le fus autrefois, et que sans doute vous secourez comme autrefois vous m'avez secouru. » Julien était ivre d'ambition, et non pas de vanité. Toutefois, il donnait une grande part de son attention à l'apparence extérieure. Ses chevaux, ses uniformes, les livrées de ses gens étaient tenus avec une correction qui aurait fait honneur à la ponctualité d'un grand seigneur anglais. À peine lieutenant, par faveur et depuis 2 jours, il calculait déjà que pour commander en chef à 30 ans, au plus tard, comme tous les grands généraux, il fallait à 23 être plus que lieutenant. Il ne pensait qu'à la gloire et à son fils. Ce fut au milieu des transports de l'ambition la plus effrénée qu'il fut surpris par un jeune valet de pied de l'hôtel de la Mole qui arrivait en courrier. « Tout est perdu !» lui écrivait Mathilde. « Accourez le plus vite possible, sacrifiez tout, désertez s'il le faut. À peine arrivé, attendez-moi dans un fiacre, près de la petite porte du jardin, au numéro de la rue. J'irai vous parler. Peut-être pourrais-je vous introduire dans le jardin. Tout est perdu, et je le crains sans ressources. Comptez sur moi. » vous me trouverez dévoué et ferme dans l'adversité. Je vous aime. »
En quelques minutes, Julien obtint une permission du colonel et partit de Strasbourg à Franc-Étrier. Mais l'affreuse inquiétude qui le dévorait ne lui permit pas de continuer cette façon de voyager au-delà de Metz. Il se jeta dans une chaise de poste, et ce fut avec une rapidité presque incroyable qu'il arriva au lieu indiqué, près la petite porte du jardin de l'hôtel de la Mole. Cette porte s'ouvrit, et à l'instant, Mathilde, oubliant tout respect humain, se précipita dans ses bras. Heureusement, il n'était que 5 heures du matin et la rue était encore déserte.
« Tout est perdu. Mon père, craignant mes larmes, est parti dans la nuit de jeudi. Pour où? Personne ne le sait. Voici sa lettre. Lisez. »
Et elle monta dans le fiacre avec Julien. « Je pouvais tout pardonner, excepté le projet de vous séduire parce que vous êtes riche. Voilà, malheureuse fille, l'affreuse vérité. Je vous donne ma parole d'honneur que je ne consentirai jamais à un mariage avec cet homme. Je lui assure 10 000 livres de rente s'il veut vivre au loin, hors des frontières de France, ou mieux encore en Amérique. Lisez la lettre que je reçois en réponse aux renseignements que j'avais demandé. L'impudent m'avait engagé lui-même à écrire à Madame de Rênal. Jamais je ne lirai une ligne de vous relative à cet homme. Je prends en horreur Paris et vous. Je vous engage à recouvrir du plus grand secret ce qui doit arriver. Renoncez, franchement, à un homme vil et vous retrouverez un père.
« Où est la lettre de Madame de Rênal ?» dit froidement Julien. « La voici. Je n'ai voulu te la montrer qu'après que tu auras été préparé. »
Lettre. Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur, à la démarche pénible que je viens accomplir auprès de vous. Une règle, qui ne peut faillir, m'ordonne de nuire en ce moment à mon prochain, mais afin d'éviter un plus grand scandale. La douleur que j'éprouve doit être surmontée par le sentiment du devoir. Il n'est que trop vrai, monsieur. La conduite de la personne au sujet de laquelle vous me demandez toute la vérité a pu sembler inexplicable ou même honnête. On a pu croire convenable de cacher ou de déguiser une partie de la réalité. La prudence le voulait aussi bien que la religion. Mais cette conduite, que vous désirez connaître, a été dans le fait extrêmement condamnable, et plus que je ne puis le dire. Pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée, et par la séduction d'une femme faible et malheureuse, que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. C'est une partie de mon pénible devoir d'ajouter que je suis obligée de croire que Monsieur J n'a aucun principe de religion. En conscience, je suis contrainte de penser qu'un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit. Couvert par une apparence de désintéressement et par des phrases de roman, son grand et unique objet est de parvenir à disposer du maître de la maison et de sa fortune. Il laisse après lui le malheur et des regrets éternels. Etc., etc. Cette lettre extrêmement longue et à demi effacée par des larmes était bien de la main de Madame de Rênal. Elle était même écrite avec plus de soin qu'à l'ordinaire. « Je ne puis blâmer Monsieur de la Mole, » dit Julien après l'avoir fini. « Il est juste et prudent. Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme ? Adieu. » Julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bout de la rue. Mathilde, qu'il semblait avoir oublié, fit quelques pas pour le suivre. Mais les regards des marchands qui s'avançaient sur la porte de leur boutique et desquels elle était connue la forcèrent à rentrer précipitamment au jardin. Julien était parti pour Verrières. Dans cette route rapide, il ne put écrire à Mathilde comme il en avait le projet. Sa main ne formait sur le papier que des traits illisibles. Il arriva à Verrières un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du pays
qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la nouvelle du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, chargea les pistolets. Les trois coups sonnaient. C'est un signal bien connu dans les villages de France et qui, après les diverses sonneries de la matinée, annonce le commencement immédiat de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de Madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme, qu'il avait tant aimée, fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis !» se disait-il à lui-même. « Physiquement, je ne le puis !» En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête, qui, un instant, se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup. Elle tomba. Chapitre 66. Détail triste. Ne vous attendez point de ma part à de la faiblesse. Je me suis vengé, j'ai mérité la mort et me voici. Priez pour mon âme. Schiller. Julien resta immobile. Il ne voyait plus. Quand il revint un peu à lui, il aperçut tous les fidèles qui s'enfuyaient de l'église. Le prêtre avait quitté l'autel. Julien se mit à suivre, d'un pas assez lent, quelques femmes qui s'en allaient en criant. Une femme, qui voulait fuir plus vite que les autres, le poussa rudement. Il tomba. Ses pieds s'étaient embarrassés dans une chaise renversée par la foule. En se relevant, il se sentit le cou serré. C'était un gendarme, en grande tenue, qui l'arrêtait. Machinalement, Julien voulut avoir recours à ses petits pistolets. Mais un second gendarme s'emparait de ses bras. Il fut conduit à la prison. On entra dans une chambre, on lui mit les fers aux mains, on le laissa seul. La porte se ferma sur lui à double tour. Tout cela fut exécuté très vite, et il y fut insensible. « Ma foi, tout est fini, » dit-il tout haut en revenant à lui. « Oui, dans 15 jours la guillotine, ou se tuer d'ici là. » Son raisonnement n'allait pas plus loin. Il se sentait la tête comme si elle eût été serrée avec violence. Il regarda pour voir si quelqu'un le tenait. Après quelques instants, il s'endormit profondément. Madame de Rênal n'était pas blessée mortellement. La première balle avait percé son chapeau. Comme elle se retournait, le second coup était parti. La balle l'avait frappée à l'épaule et, chose étonnante, avait été renvoyée par l'os de l'épaule, que pourtant elle cassa contre un pilier gothique dont elle détacha un énorme éclat de pierre. Quand, après un pansement long et douloureux, le chirurgien, homme grave, dit à Madame de Rênal « Je réponds de votre vie comme de la mienne », elle fut profondément affligée. Depuis longtemps, elle désirait sincèrement la mort. La lettre qui lui avait été imposée par son confesseur actuel et qu'elle avait écrite à M. de Lamolle avait donné le dernier coup à cet être affaibli par un malheur trop constant. Ce malheur était l'absence de Julien. Elle l'appelait, elle, le remords. Le directeur, jeune ecclésiastique, vertueux et fervent, nouvellement arrivé de Dijon, ne s'y trompait pas. Mourir ainsi, mais non de ma main, « ce n'est point un péché, » pensait Madame de Rênal. « Dieu me pardonnera peut-être de me réjouir de ma mort. » Elle n'osait ajouter « Et mourir de la main de Julien, c'est le comble des félicités. » À peine fut-elle débarrassée de la présence du chirurgien et de tous les amis accourus en foule, qu'elle fit appeler Élisa, sa femme de chambre. « Le geôlier, » lui dit-elle en rougissant beaucoup, « est un homme cruel. Sans doute il va le maltraiter, croyant en cela faire une chose agréable pour vous. »
Cette idée m'est insupportable. Ne pourriez-vous pas aller, comme de vous-même, remettre au geôlier ce petit paquet qui contient quelques louis? Vous lui direz que la religion ne permet pas qu'il le maltraite. Il faut surtout qu'il n'aille pas parler de cet envoi d'argent. »
C'est à la circonstance dont nous venons de parler que Julien dut l'humanité du geôlier de Verrières. C'était toujours ce monsieur Noiroux, ministériel parfait, auquel nous avons vu la présence de monsieur Appert faire une si belle peur. Un juge parut dans la prison.
« J'ai donné la mort avec préméditation, » lui dit Julien. « J'ai acheté et fait charger les pistolets chez un tel, l'armurier. L'article 1342 du code pénal est clair, je mérite la mort, et je l'attends. »
Le juge, étonné de cette façon de répondre, voulut multiplier les questions pour faire en sorte que l'accusé se coupât dans ses réponses.
« Mais ne voyez-vous pas, » lui dit Julien en souriant, « que je me fais aussi coupable que vous pouvez le désirer. Allez, monsieur, vous ne manquerez pas la proie que vous poursuivez. Vous aurez le plaisir de condamner. Épargnez-moi votre présence. »
« Il me reste un ennuyeux devoir à remplir, » pensa Julien. « Il faut écrire à mademoiselle de la Mole. »
« Je me suis vengé, » lui disait-il. « Malheureusement, mon nom paraîtra dans les journaux, et je ne puis m'échapper de ce monde incognito. Je mourrai dans 2 mois. La vengeance a été atroce, comme la douleur d'être séparé de vous. De ce moment, je m'interdis d'écrire et de prononcer votre nom. Ne parlez jamais de moi, même à mon fils. Le silence est la seule façon de m'honorer. Pour le commun des hommes, je serai un assassin vulgaire. Permettez-moi la vérité en ce moment suprême. Vous m'oublierez. Cette grande catastrophe dont je vous conseille de ne jamais ouvrir la bouche à être vivant aura épuisé pour plusieurs années tout ce que je voyais de romanesque et de trop aventureux dans votre caractère. Vous étiez faite pour vivre avec les héros du Moyen-Âge. Montrez-leur ferme caractère. Que ce qui doit se passer soit accompli en secret et sans vous compromettre. Vous prendrez un faux nom et n'aurez pas de confident. S'il vous faut absolument le secours d'un ami, je vous lègue l'abbé Pirard. Ne parlez à nul autre, surtout pas aux gens de votre classe, les Deluse, les Quéluse. Un an après ma mort, épousez monsieur de Croisenois. Je vous en prie, je vous l'ordonne comme votre époux. Ne m'écrivez point, je ne répondrai pas. Bien moins méchant que Lagot, à ce qu'il me semble, je vais dire comme lui. From this time forth, I never will speak word. On ne me verra ni parler ni écrire. Vous aurez eu mes dernières paroles, comme mes dernières adorations. J. S. Ce fut après avoir fait partir cette lettre que, pour la première fois, Julien, un peu revenu à lui, fut très malheureux. Chacune des espérances de l'ambition dut être arrachée successivement de son cœur par ce grand mot « Je mourrai ». La mort, en elle-même, n'était pas horrible à ses yeux. Toute sa vie n'avait été qu'une longue préparation au malheur, et il n'avait eu garde d'oublier celui qui passe pour le plus grand de tous. « Quoi donc ? » se disait-il. « Si dans 60 jours je devais me battre en duel avec un homme très fort sur les armes, est-ce que j'aurais la faiblesse d'y penser sans cesse et la terreur dans l'âme ?» Il passa plus d'une heure à chercher à se bien connaître sous ce rapport. Quand il eut vu clair dans son âme, et que la vérité parut devant ses yeux aussi nettement qu'un des piliers de sa prison, il pensa au remords. « Pourquoi en aurais-je ? J'ai été offensé d'une manière atroce. J'ai tué, je mérite la mort. Mais voilà tout. Je meurs après avoir soldé mon compte envers l'humanité. Je ne laisse aucune obligation non remplie. Je ne dois rien à personne. Ma mort n'a rien de honteux que l'instrument. Cela seul, il est vrai, suffit richement pour ma honte aux yeux des bourgeois de Verrières. Mais sous le rapport intellectuel, quoi de plus méprisable? Il me reste un moyen d'être considérable à leurs yeux. C'est de jeter au peuple des pièces d'or en allant au supplice. Ma mémoire, liée à l'idée de l'or, sera resplendissante pour eux. » Après ce raisonnement, qui au bout d'une minute lui sembla évident, « Je n'ai plus rien à faire sur la terre, » se dit Julien. Et il s'endormit profondément. Vers les 9 heures du soir, le geôlier le réveilla en lui apportant à souper. « Que dit-on dans Verrières ?»« Monsieur Julien, le serment que j'ai prêté devant le crucifix, à la cour royale, le jour que je fus installé dans ma place, m'oblige au silence. » Il se taisait, mais restait. La vue de cette hypocrisie vulgaire amusa Julien. « Il faut, pensa-t-il, que je lui fasse attendre longtemps les 5 francs qu'il désire pour me vendre sa conscience. » Quand le geôlier vit le repas finir sans tentative de séduction, « L'amitié que j'ai pour vous, monsieur Julien, dit-il d'un air faux et doux, m'oblige à parler. Quoi qu'on dise que c'est contre l'intérêt de la justice, parce que cela peut vous servir à arranger votre défense. Monsieur Julien, qui est bon garçon, sera bien content si je lui apprends que madame de Rênal va mieux. « Quoi ? Elle n'est pas morte ? S'écria Julien hors de lui. « Quoi ? Vous ne saviez rien ? Dit le geôlier d'un air stupide qui bientôt devint de la cupidité heureuse. « Il sera bien juste que monsieur donne quelque chose au chirurgien qui, d'après la loi et la justice, ne devait pas parler. Mais pour faire plaisir à monsieur, je suis allé chez lui et il m'a tout conté. « Enfin, la blessure n'est pas mortelle ? » lui dit Julien impatienté. « Tu m'en réponds sur ta vie ?» Le geôlier, géant de 6 pieds de haut, eut peur et se retira vers la porte. Julien vit qu'il prenait une mauvaise route pour arriver à la vérité. Il se rassit et jeta un napoléon à Monsieur Noiroux. À mesure que le récit de cet homme prouvait à Julien que la blessure de madame de Rênal n'était pas mortelle, il se sentait gagné par les larmes. « Sortez !» dit-il brusquement. Le geôlier obéit. À peine la porte fut-elle fermée, « Grand Dieu, elle n'est pas morte !» s'écria Julien. Et il tomba à genoux, pleurant à chaudes larmes. Dans ce moment suprême, il était croyant. Qu'importent les hypocrisies des prêtres? Peuvent-elles ôter quelque chose à la vérité et à la sublimité de l'idée de Dieu? Seulement alors, Julien commença à se repentir du crime commis. Par une coïncidence qui lui évita le désespoir, en cet instant seulement, venait de cesser l'état d'irritation physique et de demi-folie où il était plongé depuis son départ de Paris pour Verrières. Ses larmes avaient une source généreuse. Il n'avait aucun doute sur la condamnation qui l'attendait. « Ainsi elle vivra, se disait-il. Elle vivra pour me pardonner et pour m'aimer. » Le lendemain matin, fort tard, quand le geôlier le réveilla, « Il faut que vous ayez un fameux cœur, monsieur Julien, » lui dit cet homme. « 2 fois je suis venu et n'ai pas voulu vous réveiller. Voici 2 bouteilles d'excellent vin que vous envoie monsieur Maslon, notre curé. « Comment ? Ce coquin est encore ici ? » dit Julien. « Oui, monsieur, » répondit le Julien en baissant la voix. « Mais ne parlez pas si haut, cela pourrait vous nuire. » Julien rit de bon cœur. « Au point où j'en suis, mon ami, vous seul pourriez me nuire si vous cessiez d'être doux et humain. Vous serez bien payé, » dit Julien en s'interrompant et reprenant l'air impérieux. Cet air fut justifié à l'instant par le don d'une pièce de monnaie. Monsieur Noiroux raconta de nouveau et dans les plus grands détails tout ce qu'il avait appris sur madame de Rênal. Mais il ne parla point de la visite de mademoiselle Élisa. Cet homme était bas et soumis autant que possible. Une idée traversa la tête de Julien. « Cette espèce de géant difforme peut gagner 300 ou 400 francs, car sa prison n'est guère fréquentée. Je puis lui assurer 10 000 francs s'il veut se sauver en Suisse avec moi. La difficulté sera de le persuader de ma bonne foi. L'idée du long colloque à avoir avec un être aussi vil inspira du dégoût à Julien. Il pensa à autre chose. Le soir, il n'était plus temps. Une chaise de poste vint le prendre à minuit. Il fut très content des gendarmes, ses compagnons de voyage. Le matin, lorsqu'il arriva à la prison de Besançon, on eut la bonté de le loger dans l'étage supérieur d'un donjon gothique. Il jugea l'architecture du commencement du XIVe siècle. Il en admira la grâce et la légèreté piquante. Par un étroit intervalle entre deux murs, au-delà d'une cour profonde, il avait une échappée de vue superbe. Le lendemain, il y eut un interrogatoire. Après quoi, pendant plusieurs jours, on le laissa tranquille. Son âme était calme. Il ne trouvait rien que de simple dans son affaire. « J'ai voulu tuer, je dois être tué. » Sa pensée ne s'arrêta pas davantage à ce raisonnement. Le jugement, l'ennui de paraître en public, la défense, il considérait tout cela comme de légers embarras, des cérémonies ennuyeuses auxquelles il serait temps de songer le jour même. Le moment de la mort ne l'arrêtait guère plus. J'y songerai après le jugement. La vie n'était point ennuyeuse pour lui. Il considérait toute chose sous un nouvel aspect. Il n'avait plus d'ambition. Il pensait rarement à Mademoiselle de la Mole. Ses remords l'occupaient beaucoup et lui présentaient souvent l'image de Madame de Rênal, surtout pendant le silence des nuits, troublé seulement dans ce donjon élevé par le chant de l'or frais. Il remerciait le ciel de ne l'avoir pas blessé à mort. « Chose étonnante, se disait-il, je croyais que par sa lettre à Monsieur de la Mole, elle avait détruit à jamais mon bonheur à venir. Et moins de 15 jours après la date de cette lettre, je ne songe plus à tout ce qui m'occupait alors. 2 ou 3 000 livres de rente pour vivre tranquille dans un pays de montagne comme Vergy. J'étais heureux alors. Je ne connaissais pas mon bonheur. » Dans d'autres instants, il se levait en sursaut de sa chaise. « Si j'avais blessé à mort Madame de Rênal, je me serais tué. J'ai besoin de cette certitude pour ne pas me faire horreur à moi-même. » « Me tuer, voilà la grande question, se disait-il. Ces juges si formalistes, si acharnés après le pauvre accusé, qui feraient pendre le meilleur citoyen pour accrocher la croix, je me soustrairais à leur empire, à leurs injures en mauvais français, que le journal du département va appeler de l'éloquence. Je puis vivre encore 5 ou 6 semaines, plus ou moins. Me tuer, ma foi, non, se dit-il après quelques jours. Napoléon a vécu. D'ailleurs, la vie m'est agréable, ce séjour est tranquille, je n'y ai point d'ennuyeux, ajouta-t-il en riant. Et il se mit à faire la note des livres qu'il voulait faire venir de Paris. Chapitre 67. Un donjon. Le tombeau d'un ami. Stern. Il entendit un grand bruit dans le corridor. Ce n'était pas l'heure où l'on montait dans sa prison. L'orfraie s'envola en criant, la porte s'ouvrit, et le vénérable curé Chélan, tout tremblant et la canne à la main, se jeta dans ses bras. « Ah, grand Dieu, est-il possible, mon enfant ?» « Monstre, devrais-je dire !» Et le bon vieillard ne put ajouter une parole. Julien craignit qu'il ne tombât. Il fut obligé de le conduire à une chaise. La main du temps s'était appesantie sur cet homme autrefois si énergique. Il ne parut plus à Julien que l'ombre de lui-même. Quand il eut repris haleine, « Avant-hier seulement, je reçois votre lettre de Strasbourg avec vos 500 francs pour les pauvres de Verrières. On me l'a apportée dans la montagne à Livru où je suis retiré chez mon neveu, Jean. Hier, j'apprends la catastrophe. Oh ciel, est-il possible ?» Et le vieillard ne pleurait plus. Il avait l'air privé d'idées et ajouta machinalement, « Vous aurez besoin de vos 500 francs, je vous les rapporte. »
« J'ai besoin de vous voir, mon père !» s'écria Julien attendri. « J'ai de l'argent de reste !»
Mais il ne put plus obtenir de réponse sensée. De temps à autre, M. Chélan versait quelques larmes qui descendaient silencieusement le long de sa joue. Puis il regardait Julien et était comme étourdi de le voir lui prendre les mains et les porter à ses lèvres. Cette physionomie si vive autrefois et qui peignait avec tant d'énergie les plus nobles sentiments, ne sortait plus de l'air apathique. Une espèce de paysan vint bientôt chercher le vieillard. « Il ne faut pas le fatiguer, » dit-il à Julien, qui comprit que c'était le neveu. Cette apparition laissa Julien plonger dans un malheur cruel et qui éloignait les larmes. Tout lui paraissait triste et sans consolation. Il sentait son cœur glacé dans sa poitrine. Cet instant fut le plus cruel qu'il eût éprouvé depuis le crime. Il venait de voir la mort, et dans toute sa laideur. Toutes les illusions de grandeur d'âme et de générosité s'étaient dissipées comme un nuage devant la tempête. Cette affreuse situation dura plusieurs heures. Après l'empoisonnement moral, il faut des remèdes physiques et du vin de champagne. Julien se fut estimé un lâche d'y avoir recours. Vers la fin d'une journée horrible, passée tout entière à se promener dans son étroit donjon, « Que je suis fou !» s'écria-t-il. « C'est dans le cas où je devrais mourir comme un autre que la vue de ce pauvre vieillard aurait dû me jeter dans cette affreuse tristesse. Mais une mort rapide et à la fleur des ans me met précisément à l'abri de cette triste décrépitude. » Quelque raisonnement qu'il se fit, Julien se trouva attendri comme un être pusillanime, et par conséquent, malheureux de cette visite. Il n'y avait plus rien de rude et de grandiose en lui, plus de vertu romaine. La mort lui apparaissait à une plus grande hauteur et comme chose moins facile. « Ce sera là mon thermomètre, » se dit-il. « Ce soir, je suis à 10 degrés au-dessous du courage qui me conduit de niveau à la guillotine. Ce matin, je l'avais, ce courage. Au reste, qu'importe, pourvu qu'il me revienne au moment nécessaire. » Cette idée de thermomètre l'amusa et enfin parvint à le distraire. Le lendemain, à son réveil, il eut honte de la journée de la veille. « Mon bonheur, ma tranquillité sont en jeu. » Il résolut presque d'écrire à monsieur le procureur général pour demander que personne ne fût admis auprès de lui. « Et Fouquet, pensa-t-il, s'il peut prendre sur lui de venir à Besançon, quelle ne serait pas sa douleur ?» Il y avait 2 mois peut-être qu'il n'avait songé à Fouquet. « J'étais un grand sot à Strasbourg. Ma pensée n'allait pas au-delà du collet de mon habit. » Le souvenir de Fouquet l'occupa beaucoup et le laissa plus attendri. Il se promenait avec agitation. « Me voici décidément de 20 degrés au-dessous du niveau de la mort. Si cette faiblesse augmente, il vaudra mieux me tuer. Quelle joie pour les abbés Massion et les Valenod si je meurs comme un cuistre !» Fouquet arriva. Cet homme simple et bon était éperdu de douleur. Son unique idée, s'il en avait, était de vendre tout son bien pour séduire le geôlier et faire sauver Julien. Il lui parla longuement de l'évasion de M. Lavalette. « Tu me fais peine, » lui dit Julien. « M. de Lavalette était innocent, moi je suis coupable. Sans le vouloir, tu me fais songer à la différence. » « Mais est-il vrai ? Quoi ? Tu vendrais tout ton bien ?» dit Julien, redevenant tout à coup observateur et méfiant. Fouquet, ravi de voir enfin son ami répondre à son idée dominante, lui détailla longuement et à 100 francs près ce qu'il tirerait de chacune de ses propriétés. « Quel effort sublime chez un propriétaire de campagne !» pensa Julien. « Que d'économies, que de petites demi-lésineries qui me faisaient tant rougir lorsque je les lui voyais faire. Il sacrifie pour moi. un de ces beaux jeunes gens que j'ai vus à l'hôtel de la Mole et qui lisent René n'aurait aucun de ces ridicules. Mais excepté ceux qui sont fort jeunes et encore enrichis par héritage et qui ignorent la valeur de l'argent, quel est celui de ces beaux Parisiens qui serait capable d'un tel sacrifice? Toutes les fautes de français, tous les gestes communs de Fouquet disparurent. Il se jeta dans ses bras. Jamais la province, comparée à Paris, n'a reçu un plus bel hommage. Fouquet, ravi du moment d'enthousiasme qu'il voyait dans les yeux de son ami, le prit pour un consentement à la fuite. Cette vue du sublime rendit à Julien toute la force que l'apparition de M. Chélan lui avait fait perdre. Il était encore bien jeune, mais, suivant moi, ce fut une belle plante. Au lieu de marcher du tendre au rusé, comme la plupart des hommes, l'âge lui eut donné la bonté facile à s'attendrir. Il se fut guéri d'une méfiance folle. Mais à quoi bon ces vaines prédictions? Les interrogatoires devenaient plus fréquents, en dépit des efforts de Julien, dont toutes les réponses tendaient à abréger l'affaire. « J'ai tué, ou du moins j'ai voulu donner la mort, et avec préméditation », répétait-il chaque jour. Mais le juge était formaliste avant tout. Les déclarations de Julien n'abrégeaient nullement les interrogatoires. L'amour-propre du juge fut piqué. Julien ne sut pas qu'on avait voulu le transférer dans un affreux cachot et que c'était grâce aux démarches de Fouquet qu'on lui laissait sa jolie chambre à 180 marches d'élévation. Monsieur l'abbé de Frilair était au nombre des hommes importants qui chargeaient Fouquet de leurs provisions de bois de chauffage. Le bon marchand parvint jusqu'au tout-puissant grand vicaire. À son inexprimable ravissement, Monsieur de Frilair lui annonça que, touché des bonnes qualités de Julien et des services qu'il avait autrefois rendus au séminaire, il comptait le recommander au juge. Fouquet entrevit l'espoir de sauver son ami, et en sortant, et se prosternant jusqu'à terre, pria monsieur le grand vicaire de distribuer en messe, pour implorer l'acquittement de l'accusé, une somme de 10 louis. Fouquet se méprenait étrangement. Monsieur de Frilair n'était point un valenod. Il refusa, et chercha même à faire entendre au bon paysan qu'il ferait mieux de garder son argent. Voyant qu'il était impossible d'être clair sans imprudence, il lui conseilla de donner cette somme en aumône pour les pauvres prisonniers, qui, dans le fait, manquaient de tout. Ce Julien est un être singulier. Son action est inexplicable, pensait Monsieur de Frilair, et rien ne doit l'être pour moi. Peut-être sera-t-il possible d'en faire un martyr. Dans tous les cas, je saurai le fin de cette affaire et trouverai peut-être une occasion de faire peur à cette madame de Rênal, qui ne nous estime point et, au fond, me déteste. Peut-être pourrais-je rencontrer dans tout ceci un moyen de réconciliation éclatante avec Monsieur de la Mole, qui a un faible pour ce petit séminariste. La transaction sur le procès avait été signée quelques semaines auparavant, et l'abbé Pirard était reparti de Besançon, non sans avoir parlé de la mystérieuse naissance de Julia, le jour même où le malheureux assassinait Madame de Rênal dans l'église de Verrières. Julien ne voyait plus qu'un événement désagréable entre lui et la mort. C'était la visite de son père. Il consulta Fouquet sur l'idée d'écrire à monsieur le procureur général pour être dispensé de toute visite. Cette horreur pour la vue d'un père, et dans un tel moment, choqua profondément le cœur honnête et bourgeois du marchand de bois. Il crut comprendre pourquoi tant de gens haïssaient passionnément son ami. Par respect pour le malheur, il cacha sa manière de sentir. « Dans tous les cas, lui répondit-il froidement, cet ordre de secret ne serait pas appliqué à ton père. »